Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture, ça va aujourd'hui de l'ORTF à l'accordéon. Le président Giscard d'Estaing, je ne vous apprends rien, est mort. Dans le journal des médias, nous consacrerons une large place à son action au niveau des médias, presse, radio et télé, et également sur la communication politique qu'il a dépoussiérée. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média, la Ligue 1, le championnat de France de foot peut-il faire faillite? L'espagnol Mediapro, qui en a obtenu les droits, n'a toujours pas réglé l'acompte de 172 millions d'euros qu'il doit à la Ligue. Il doit le faire dans 2 jours au plus tard, alors qu'en parallèle, une médiation est en cours entre la LFP et Mediapro, et Canal+ s'en mêle. Plus de 2 jours, on en parle avec Christophe Le Petit, économiste du sport, et Jean-François Pérez, le patron du service des sports d'Europe 1. Puis nos invités, l'animatrice Laura Tenucci et le réalisateur Tristan Carnet pour la 34e édition du Téléthon. C'est ce week-end sur toutes les antennes de France Télévisions, et il y a du nouveau à cause du Covid d'abord, mais également avec une tombola assez extraordinaire, vous l'entendrez. Enfin, un personnage, le pianiste et compositeur Chilly Gonzalez, il a joué avec Daft Punk, il revient en chaussons et robe de chambre pour un nouvel album, un disque de Noël. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, même si je l'ai un peu annoncé, votre
oui,
sommaire
c'est ça,
du jour.
Voilà, vous m'avez un peu spoilé, on va parler évidemment beaucoup de Valéry Giscard d'Estaing et de son rapport aux médias.
On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
La bataille a été très serrée et au final, c'est M6 qui est en tête avec un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier saison 9. 3 100 000 fans de gâteaux en tout genre étaient au rendez-vous pour une part d'audience de 15,4%. M6 est aussi largement leader sur les femmes de moins de 50 ans à 28%, soit 7 points de plus que TF1. TF1 justement a pris la deuxième place sur l'ensemble du public et aussi du coup sur les femmes de moins de 50 ans avec la suite de New Amsterdam saison 2. La série médicale américaine a fédéré 3 millions de téléspectateurs, soit 13,3% du public. Enfin, c'est France 2 qui s'est classé 3e avec un film en rediffusion. L'étudiante et Monsieur Henry avec Claude Brasseur a été suivi par 2 700 000 téléspectateurs, soit 11,9% du public.
Culture Média.
C'était le premier président à avoir autant joué des médias. Journal des médias spécial Valéry Giscard d'Estaing ce matin au lendemain de sa mort à 94 ans.
Europe 1 vous l'a annoncé en premier hier soir un peu avant 23h. Il était tard donc, mais ça n'a pas empêché la plupart de vos journaux de faire leur une sur cet événement. Ouest France, La Voix du Nord, La Provence, Le Figaro, même L'Équipe lui rend hommage. Le monopole du cœur, c'est le titre du journal sur une photo de Neymar, vainqueur hier soir en Ligue des Champions avec le PSG.
Et le monopole du cœur, c'est une expression qui a marqué la carrière politique et médiatique de l'ancien président.
Oui, c'était à la télévision, média qu'il a été le premier à utiliser autant dans sa communication. On est en mai 1974, entre les deux tours de l'élection présidentielle. C'est le premier débat présidentiel télévisé en France. Face à lui, François Mitterrand.
D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
Sûrement pas.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Merci d'être en direct dans Culture Média. Valéry Giscard d'Estaing est celui qui a compris la force que les médias et la télévision en particulier pouvaient donner à ses formules, à ses punchlines. Et
effectivement, d'ailleurs, c'est lui l'inventeur de la punchline parce qu'il y a eu avant ça Giscard à la barre, le monopole du cœur, on vient l'écouter, la botte gagnante entre les deux tours, donc en 1974. Et ce soir-là, avec cette phrase seulement, il gagne près de 300 000 voix. C'est ce que lui dira François Mitterrand plus tard en disant « Vous avez gagné ce soir-là, à ce moment-là. 1980, ben ce sera la revanche. Ouais. Même scène politique, 7 ans plus tard. Cette fois-ci, c'est Mitterrand qui lui dit « Vous dites que je suis l'homme du passé. Dommage, vous êtes devenu l'homme du passif. » Cette fois-ci, c'est Mitterrand qui gagne.
Il a pris la leçon auprès de Valéry Giscard d'Estaing. VGE qui a été le premier président à changer l'image de la fonction. On pense notamment au jour de sa prise de fonction, le jour où il est arrivé à l'Élysée.
Et où on a beaucoup parlé de cette image de départ, mais à l'image de l'arrivée en 74, il rentre à l'Élysée à pied, en costume de ville. Et là, les Français comprennent déjà qu'on va être dans une ère de rupture. Il n'est pas en queue de pie. Il regarde simplement ce fameux collier de la Légion d'honneur que d'habitude les présidents donc mettaient autour du cou. Cette fois-ci, il la regarde. Et la photo dans la bibliothèque, c'est terminé. Donc on voit bien que dès le début, c'est l'ère de la rupture avec donc Valéry Giscard d'Estaing.
Et ça ne s'arrêtait pas là. Il avait totalement désacralisé la fonction. En 74, jour de Noël, il reçoit des éboueurs à l'Élysée. Il prend le petit déjeuner avec eux. Il leur offre quelques cadeaux. Europe 1 y était pour recueillir le témoignage de l'un de ses éboueurs.
Puis on ne savait pas, on a vu le président, quoi. On a pris le déjeuner avec lui. Et il nous a remis en partant des cadeaux de Noël.
De quoi vous parlez ?
Oh ben un peu de tout, du travail. Enfin, on a répondu surtout à ses questions. Il nous a demandé ce qu'on avait fait, ce qu'on faisait, quoi. Ce que faisait le travail, alors que ça commençait, alors que ça finissait.
Vous avez quand même pu lui exposer un petit peu vos revendications, si vous en avez, etc.
Non, on n'a même pas parlé, non. Surtout, on était brûlés pour lui, quoi, on ne le savait pas.
Et puis aussi cette communication, pour paraphraser quelqu'un, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle mis en examen ? Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle jouer de l'accordéon avec Daniel Gilbert ? Giscard l'a fait.
Et oui, il avait absolument apprivoisé cette télévision qui terrorisait les hommes politiques, qui étaient gris et corsetés à l'époque. Non seulement il a joué de l'accordéon aux côtés d'une jeune présentatrice à la télévision, Daniel Gilbert, mais aussi, également quand il était ministre des Finances, on l'a vu jouer au football. Imaginez-vous la révolution pour les Français de voir un homme politique dans cette situation-là. Évidemment, ça a beaucoup contribué donc à casser son image et a créé l'événement Giscard.
Et depuis, on a même vu François Hollande jouer au football. Charles de Caen.
Oui, Valéry Giscard d'Estaing a toujours su maîtriser sa communication, sauf peut-être, vous le disiez, Michael, à la fin de son mandat, le 19 mai 1981, deux jours avant de quitter l'Élysée, il adresse un dernier message aux Français. On a tous cette scène en tête et les silences qui vont avec.
Au revoir.
Voilà, on le voit ensuite se lever, tourner le dos à la caméra, marcher quelques secondes avant de sortir du champ. C'est une scène qui a souvent fait sourire et l'ancien président s'en était expliqué au micro d'Europe 1 en 2011. Il était l'invité d'Arlette Chabot.
J'avais écrit un texte pour dire adieu aux Français. Bon. Ce texte, je l'ai écrit moi-même à la main. Bon. Et je n'avais pas vu que la porte qui était dans la salle, c'est une assez grande salle, était assez loin. Et je m'étais dit, comme il faut visualiser, dans le monde de l'image, il faut visualiser le départ. Donc je vais me lever, puis je vais partir. Mais je n'avais pas vu que ça faisait un trajet si long. Mmh. Et alors la caméra m'a suivi pendant un long moment, et ça a marqué les gens qui ont vu une espèce de départ un peu tragique, un peu insistant, et ainsi de suite. Et pour beaucoup d'entre eux, ça les a émus, et pour d'autres, c'était un sujet de critique ou de dérision par la suite. Mais ce n'était pas programmé.
Michael Darmon, Valéry Giscard d'Estaing ensuite a un peu distillé ses conseils en politique, des conseils souvent judicieux.
Ah oui, à Nicolas Sarkozy, candidat en 2007, il va donner un conseil. Faites des réformes qui tiendront en une seule ligne et dont on dira qu'il y a eu un avant et un après. Il a dit ça pour que les réformes changent la vie des Français et parce que lui aussi, Giscard d'Estaing, il avait la hantise d'être oublié.
On n'oubliera pas le droit de vote à 18 ans et la réforme de
toutes les réformes les plus importantes tiennent en peu de lignes.
Au-delà de son usage des médias, je me tourne vers vous Charles de Caen, Valéry Giscard d'Estaing les a profondément réformés.
Oui, dès le début de son mandat, il a pris des décisions très importantes pour l'audiovisuel, dont les conséquences se ressentent encore aujourd'hui. À la fin de l'année 74, c'est lui qui supprime l'ORTF, ce symbole du contrôle de l'État sur les médias. L'ORTF est scindé en 7 sociétés. C'est à ce moment-là que naissent TF1, Antenne 2, FR3 ou encore Radio France et l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Mais si l'ORTF est démantelé, le contrôle de l'État sur les programmes reste conséquent jusqu'en 1981, jusqu'à la libéralisation des ondes. En parallèle, Valéry Giscard d'Estaing essaye aussi de prendre en compte l'avis des téléspectateurs au sujet de la qualité des programmes, comme il l'expliquait à l'époque. On est en juillet 1974. Tendez bien l'oreille.
Je crois que les cahiers des charges devront être revus périodiquement. Presque tous les 3 ans, par exemple, réexaminer ces cahiers des charges pour voir si la qualité de la télévision répond bien à l'attente des pouvoirs publics et d'ailleurs à l'attente des téléspectateurs. Et il faudra que dans la répartition des ressources, le critère de qualité, c'est-à-dire l'appréciation de qualité portée par ceux qui la porteront, que ce critère joue un grand rôle.
Et puis il y a également eu des moments tendus avec certains médias, notamment avec le Canard enchaîné qui a révélé en 79 l'affaire des diamants de Bokassa. C'était des pierres offertes, je le rappelle, au président par l'ancien dirigeant centrafricain. Une affaire qui a joué un rôle crucial dans sa défaite en 1981.
Voilà, notez qu'Europe 1 rediffusera cet après-midi l'épisode d'Ondelat raconte consacré à l'ancien président. Ça s'appelle VGE, le Macron des années 70. Il est d'ores et déjà disponible en podcast sur Europe1.fr.
Emmanuel Macron qui a rendu hommage à Valéry Giscard d'Estaing dès cette nuit et qui devait accorder une longue interview en ligne aux médias bruts cet après-midi.
Oui, l'entretien a été décalé sans doute à cause de l'actualité. Le président de la République s'adressera finalement aux internautes du média en ligne demain à 16h.
Et puis une dernière info pour terminer, on la recevait la semaine dernière, Sophie Davant, pour parler du magazine qu'elle vient de lancer. Ça s'appelle S Magazine, qui rencontre un beau succès en kiosque.
100 000 exemplaires se sont déjà écoulés depuis sa sortie il y a 10 jours. L'éditeur CMI France annonce fièrement dans son communiqué qu'un magazine S se vend toutes les 5 secondes en en France depuis son arrivée en kiosque. Certains points de vente sont d'ailleurs en rupture de stock. CMI a donc lancé une réimpression de 80 000 exemplaires supplémentaires pour un tirage total de 330 000.
La presse écrite qui s'achète, qui se vend, ça nous fait plaisir ici à Culture Média. Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, on va parler dans l'info média du jour sur la crise du foot professionnel en France, celle des droits télévisés. Le principal diffuseur du championnat Mediapro ne peut plus payer ce qu'il doit au club. On en parle avec l'économiste du sport Christophe Le Petit et Jean-François Pérès, chef du service des sports d'Europe 1. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Le football professionnel est en danger en France, peut-être en danger de mort. Il est malade de ce qui aurait pu le rendre encore plus vigoureux et compétitif, les droits télé. Il les avait vendus à prix d'or il y a 2 ans et demi, 1,150 milliard d'euros par saison, dont 780 à une société qui est finalement incapable de payer ses traites. Cette société, c'est Mediapro. Elle n'a pas versé ce qu'elle devait en octobre, 172 millions d'euros, excusez du peu. Et rien ne dit qu'elle va verser ce qu'elle doit ce mois-ci. Elle doit le faire dans les 2 jours au plus tard, alors qu'en parallèle, une médiation est en cours entre la Ligue de football professionnel, la LFP et Mediapro. Pour parler de ce dossier à la fois médiatique, économique et sportif, 2 invités. Jean-François Pérès, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour.
Vous êtes le chef du service des sports d'Europe 1 et on entendra Christophe Le Petit en ligne avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour Philippe, bonjour Jean-François.
Vous êtes économiste au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, d'où la distance entre vous et nous, mais vous êtes avec nous par la pensée. Jean-François Pérès, le foot français va mal. Comment en est-on arrivé là alors que tout se dessinait plutôt bien ?
Est-ce que vous vous souvenez de l'émission de télé qui s'appelait Le Millionnaire,
oui,
qui était présentée par Philippe Risoli?
Oui.
Bon, bah, le foot français, c'était pas Le Millionnaire, c'était où les gens criaient Le Million, Le Million. Là, c'est Le Milliard, Le Milliard. En fait, c'est l'histoire d'une obsession. L'obsession d'arriver à ce que le foot français vale 1 milliard d'euros.
Ouais.
Jusqu'à présent, jusqu'à 2018, c'était environ 700 millions d'euros.
Par an.
Mediapro est arrivé et a fait une promesse qui ne s'élevait pas à environ 1 milliard. Mais avec les autres droits, on arrivait à cette somme-là qui était symbolique, qui faisait du foot français une licorne, parce qu'il faut savoir que le foot français est complexé par rapport aux Anglais, notamment, qui arrivent à faire un business incroyable avec leur championnat. Et le foot français a réussi donc à entrer dans la cour des grands, entre guillemets, via ce contrat qui était dangereux. Et c'est comme ça qu'on a évincé un partenaire historique qui était Canal+, qui était là depuis 1984.
On va entendre justement le patron de Canal+. C'est en mai 2018 que Mediapro a remporté la plupart des lots de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, donc ça court encore sur 4 ans. Les autres lots avaient été attribués à Bein Sport et à Free. Rien alors pour Canal+, le diffuseur historique du championnat. Coup de tonnerre, son président Maxime Saada était sonné, déçu, mais également lucide. Ce qu'il disait alors s'est révélé juste. Nous sommes, écoutez ce document, nous sommes au lendemain de la décision de la Ligue et Maxime Saada était l'invité de Patrick Cohen, donc en mai 2018 sur Europe 1.
Ce qui est certain, c'est que le prix qui a été payé hier, pour moi, je le trouve complètement déraisonnable. Je rappelle d'ailleurs qu'on parle de prix payé, mais enfin, il n'y a pas de paiement. Là aussi, on verra dans 2 ans. Pour moi, les vraies questions sont pour les présidents de club. Hein. Je ne vois pas comment, j'estime qu'ils ont payé à peu près 800-850 millions d'euros pour les droits qu'ils ont acquis. Pour rentabiliser ça, il faudrait à peu près 7 millions d'abonnés à 15 euros par mois pour rentabiliser cette somme. Bein Sport, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ils ont beaucoup plus de droits que la Ligue 1, la Coupe du Monde, l'Euro, toutes les compétitions européennes ou presque, le basket, etc. etc. Ils sont à peine arrivés à 3 millions et demi. Donc je ne vois pas comment un acteur peut rentabiliser. Moi, vous savez, à la fin, ce qui compte pour moi, on pose beaucoup la question de la survie de Canal ce matin, je l'ai entendu sur votre antenne tout à l'heure. Moi, la question que je pose, c'est la survie de Mediapro et des autres. Pardon.
Tout y est, et la prophétie annoncée par Maxime Saada s'est réalisée. Christophe Le Petit, Mediapro visait 3,5 millions d'abonnés pour être rentable, selon leur propre dire. Il en a 7 fois moins, 480 000 selon une audit financier qui a été révélée par le journal L'Équipe. Est-ce que le groupe espagnol est-il lui aussi en danger ? Est-ce que Mediapro peut faire faillite, Christophe Le Petit ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que la pérennité de son modèle économique sur le marché français avec sa chaîne Téléfoot est extrêmement remise en question, puisque les objectifs, vu qu'ils n'ont pas réussi à revendre de l'eau jusqu'à présent, puisque c'était certainement leur objectif sous-jacent, étaient d'arriver à agréger 3,5 millions d'abonnés à 25 euros par mois. Mmh. On en est très très loin, alors même qu'on aurait dû avoir un afflux d'abonnements en début de lancement de la chaîne. Et vu ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à atteindre ces chiffres-là. Et donc, c'est vrai que le modèle économique n'apparaît absolument pas viable, encore moins viable aujourd'hui qu'il ne l'était hier.
Christophe Lepetit, le fond du problème, c'est que Mediapro ne paye pas ce qu'il doit à la Ligue. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il doit lui verser 150 millions tous les deux mois environ. Il ne l'a rien versé en octobre dernier, je l'ai dit, 172 millions. Pour le moment, on n'attend rien, plutôt rien n'est annoncé en décembre. Jusqu'à demain pour payer, je l'ai dit. Pourquoi Mediapro continue-t-il alors à diffuser les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2?
Alors aujourd'hui, effectivement, Mediapro, malgré tout, a un contrat qui est existant avec la LFP. La procédure de conciliation qui a été engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre, finalement, retarde la possibilité pour la Ligue de football professionnel de pouvoir éventuellement récupérer ses droits pour les remettre sur le marché ou les réattribuer à tel ou tel opérateur télévisuel. Donc, pour l'instant, on est dans une situation où, effectivement, vous avez un diffuseur Mediapro qui ne paie pas la LFP, mais qui peut encore s'appuyer sur son contrat qui continue à courir et donc diffuser les matchs. Ce qui est effectivement assez ubuesque et ce qui, vous le rappeliez et vous le soulignez, est un vrai danger pour le football professionnel français et pour les clubs qui font face à une vraie incertitude et qui s'inquiètent grandement de ne pas pouvoir encaisser les droits télé prévus dans un contexte déjà extrêmement compliqué et donc qui peuvent craindre pour certains, très certainement, pour leur pérennité, puisqu'on peut avoir dans la pire des situations des cessations de paiement pour certains clubs qui pourraient intervenir selon que Mediapro paie ou pas ce qu'il doit et selon que la LFP arrive ou pas à trouver un diffuseur de remplacement.
Alors officiellement, Mediapro ne met pas en avant le fait qu'ils aient moins d'abonnés que prévu. Mediapro demande un rabais sur les sommes qu'il doit payer en raison, disent-ils, de l'épidémie de Covid-19 qui aurait changé l'univers autour du football. Christophe Lepetit, est-ce que c'est selon vous un argument recevable ?
Non, pas du tout. C'est évident que l'épidémie de Covid-19 a dégradé la qualité générale du football européen et mondial, puisqu'il y a, par exemple, il n'y a plus de spectateurs dans les stades. Donc le produit est un peu dégradé. Malgré tout, contrairement à la saison 2019-2020 et à la fin de saison 2019-2020, les matchs se jouent. Donc ouais. Aujourd'hui, les prestations qui sont prévus au contrat sont fournis par la LFP dans un contexte dégradé que la LFP sur lequel la LFP ne peut pas faire grand chose et donc on peut pas véritablement accéder à cet argument de Mediapro. Je pense moi que Mediapro a eu une stratégie qui était tout autre et qui ne s'est pas réalisée, c'est-à-dire qu'ils ont acheté énormément de droits très certainement au départ dans l'idée d'en sous-licencier une partie puisque c'était une possibilité qui était ouverte dans l'appel d'offres. Ils avaient très certainement dans l'idée d'en revendre une partie en particulier à Canal+. Et là, il faut souligner que Maxime Saada n'a pas ouvert la porte et a été très bon dans la négociation, comme il l'avait souligné en 2018. J'étais justement sur votre plateau, moi, juste avant Maxime Saada en 2018. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, Mediapro se retrouve pris à son propre piège, ouais. D'un modèle, finalement, d'un business model qui ne s'est pas réalisé au départ. Et donc, il a dû lancer sa chaîne avec un business model qui n'est absolument pas rentable et totalement ubuesque. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation de blocage où Mediapro n'a visiblement pas d'avenir et où les clubs français sont en grand danger.
Justement, Christophe Lepetit, vous restez avec nous puisqu'on va parler du Chevalier Blanc Canal+, qui arrive avec Jean-François Pérez, également chef du patron des sports d'Europe 1. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1 et non pas le chef du patron, et Christophe Lepetit, économiste du Centre de droit et d'économie du sport à Limoges. On parle de l'affaire Mediapro, des relations avec la Ligue. Jean-François Pérez, avant 2018, personne ou presque n'avait entendu parler de Mediapro. Quel est ce groupe qui a envoûté les dirigeants du foot français? Enfin, envoûté, il y avait quand même le milliard. Il y avait déjà eu une alerte en Italie.
Oui, il y avait une alerte en Italie. Alors Mediapro, en un mot, c'est un groupe qui a été fondé dans les années 90 à Barcelone autour d'un personnage très, très étonnant qui s'appelle Jaume Roures, qui est un ancien trotskiste, qui est devenu un businessman. Et Mediapro s'est développé dans des dizaines de pays. C'est vraiment un groupe qui a pignon sur rue aujourd'hui. Et donc, en effet, ils avaient obtenu les droits du championnat italien, sauf qu'ils n'avaient pas proposé de garantie bancaire. Et le foot italien, via la Ligue italienne de foot, avait dit non, on est désolé, mais s'il n'y a pas de garantie bancaire, on n'ira pas plus loin. Et voilà comment Mediapro a reculé en Italie. En France, on a estimé que pour une somme pareille, je reprends les propos des directeurs et des responsables, des dirigeants de l'époque de la Ligue, pour une somme pareille, ce n'est pas la peine de demander une garantie bancaire. Et voilà comment on s'est retrouvé avec ce contrat de Mediapro, qui est fragile. Mais attention, il ne faut pas se tromper, Mediapro, ce n'est pas une société qui ne peut pas payer. Je vous le disais, elle est dans des dizaines de pays, elle a même fait des bénéfices l'an passé. C'est juste qu'ils ne veulent pas payer, parce qu'ils estiment que le spectacle ne vaut pas la somme.
Vous pensez qu'ils sont sincères et que ce n'est pas une manœuvre dilatoire?
Ah non, non, mais attention, ce sont des hommes d'affaires redoutables. Donc ils sont là pour négocier et ils sont là pour payer au moindre prix ce qu'ils payent. Voilà.
On va voir les choses de notre point de vue à nous, Français. Christophe Le Petit, il y a urgence, car la Ligue et donc les clubs pourraient vite manquer d'argent. Si ce sera le cas, si Mediapro ne paye pas sa traite ce mois-ci, parce que dans le même temps, la Ligue pourrait ne pas bénéficier d'un nouveau prêt bancaire pour pallier ce défaut de paiement. C'est une information du journal L'Équipe hier. Est-ce que c'est une possibilité réelle, Christophe Le Petit, ou simplement une menace pour faire bouger les choses? Je pense qu'on a perdu, Christophe Le Petit. Je vous pose la même question. Est-ce que pour vous, c'est une possibilité réelle que tout s'arrête, que les paiements s'arrêtent et que les clubs n'obtiennent pas de prêts bancaires et qu'ils se retrouvent en cessation de paiement ou quasiment de fait?
Normalement, Mediapro ne paiera pas l'échéance de décembre, qui est d'environ 150 millions d'euros, en effet. Et c'est très grave, parce que la Ligue s'est déjà endettée, a déjà contracté des prêts, et les banques ne veulent plus prêter parce que la Ligue est trop endettée pour l'instant. Il faut absolument que de l'argent frais entrent dans les caisses parce que les clubs sont majoritairement dépendants des droits télé. Donc le foot français en ce moment est en grand danger. Mediapro évidemment va être poussé à payer. Les pressions sont évidemment très, très, très fortes. Le conciliateur de justice doit rendre sa décision parce qu'il faut savoir qu'il y a une conciliation auprès du tribunal de commerce de Nanterre entre d'un côté Mediapro, de l'autre la Ligue de foot professionnelle. Et il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table. Le plus spectaculaire serait que Mediapro renonce à son contrat, qu'un nouvel appel d'offres soit lancé et qu'éventuellement Canal+, qui a très très envie de revenir dans le foot français, même s'il ne le dit pas parce qu'il joue sur du velours Canal+, là, hein, voilà, il s'en fout un petit peu désirer, que Canal donc revienne avec peut-être d'autres partenaires, que Mediapro reste mais cède une partie de ses droits, mais ça fragilise encore plus son business plan avec sa chaîne, ou alors que Mediapro obtienne un droit de diffusion de sa propre chaîne via Canal+, CanalSat, etc.
Christophe Le Petit, le chevalet blanc, on le citait, c'est Canal+ qui pourrait sauver le foot professionnel. Le groupe discute avec la Ligue, le groupe Canal+ discute avec la Ligue aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait prendre la suite de Mediapro, se substituer à Mediapro et récupérer les droits du championnat de France, comme vient de l'évoquer Jean-François Pérez? Qu'en pensez-vous, Christophe Le Petit?
Jean-François Pérez a raison. Canal+ connaît la valeur stratégique de la Ligue 1 en termes de génération d'abonnements. Donc c'est évident que Canal+ sera présent d'une façon ou d'une autre à partir du moment où les droits seront disponibles. C'est-à-dire soit qu'ils soient disponibles par le biais d'une nouvelle procédure d'appel d'offres lancée par la LFP, soit que Mediapro, contraint et forcé, soit dans l'idée de sous-licencier une partie des lots, et en particulier les lots les plus qualitatifs, à Canal+. Par contre, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, Canal+, après s'être fait finalement éjecter du marché en 2018 lors du dernier appel d'offres, et après avoir tenu fermement la barre dans les négociations avec Mediapro justement pour la distribution de la chaîne, est en position de force dans la négociation. Donc Canal+ connaît la valeur stratégique des droits de la Ligue 1, mettra certainement un montant qui permettrait de sauver les meubles, ce qui ne serait pas malgré tout sans générer quelques difficultés pour le football français, mais Canal+ fera malgré tout le prix et ne montera pas très, très probablement au niveau auquel Mediapro était monté, c'est-à-dire qu'on sera certainement avec un niveau global de droits télé pour la Ligue 1 assez nettement dégradé par rapport aux milliards 2 qui étaient prévus.
Ouais, la bataille pour les droits de la Ligue 1 passe également par la justice. Mediapro vient d'assigner Canal+ en justice. Il l'accuse de vouloir l'évincer du marché et réclame des dommages et intérêts à la chaîne cryptée. En septembre, c'était l'inverse. C'était Canal+ qui avait engagé des poursuites contre Mediapro. Pourquoi ces attaques devant les tribunaux alors qu'il s'agit d'accords commerciaux, Christophe Le Petit?
On est dans un jeu de poker menteur. Très clairement, chacun fait valoir ses intérêts. Jean-François Pérez rappelait que Mediapro était dirigé par des hommes d'affaires redoutables. Il a raison. Ils ont face à eux Maxime Saada, qui est lui aussi un animal à sang-froid et un homme d'affaires redoutable. Et donc chacun joue ses pions, avance ses pions, comme dans une partie d'échecs, pour essayer de protéger ses intérêts. Aujourd'hui, très clairement, celui qui est en position de force, c'est Maxime Saada et c'est Canal+, parce qu'ils sont vus par le football français comme de potentiels sauveurs, parce qu'en face, ils ont Mediapro qui a un business model qui n'est pas rentable, qui ne sera jamais rentable, c'est une évidence, qui ont un actionnaire qui n'est pas forcément très enclin à renflouer la société Mediapro à perte durant toute la durée du contrat. Donc chacun joue sa partition. Canal+ accuse Mediapro de vouloir d'avoir demandé des conditions exorbitantes pour justement la distribution de la chaîne Téléfoot. En face, Mediapro accuse Canal+ quelque part d'abus de position dominante, en lui fermant l'accès au marché. Voilà ce qui est de bonne guerre. Mais tout cela, en fait, se fait entre diffuseurs, avec la Ligue de football et les clubs au milieu. Et il faut surtout souhaiter qu'à la fin, il n'y ait pas justement de défaillance au niveau du football français.
Souhaitons-le. Jean-François Pérez, en parallèle de ces discussions, il y a une médiation qui est menée. Elle a commencé entre les avocats des deux parties. Puis les dirigeants se sont personnellement impliqués. Elle doit prendre fin lundi. Selon vos informations, quelle est la tendance aujourd'hui ?
C'est tendu. C'est clairement tendu parce qu'on a affaire à trois parties, la Ligue, Canal+, et Mediapro, qui ont des intérêts totalement divergents.
Ils se parlent ensemble dans la même pièce ?
Ils se sont rencontrés via le conciliateur, bien sûr. On essaie d'avancer, mais c'est difficile parce que les points de vue sont pour l'instant difficilement conciliables. Dommage, il y a un conciliateur.
Ouais.
Mais on attend sa décision qu'il advienne lundi. Je vous l'ai dit, hein, il y a trois possibilités. La haute, Mediapro s'arrête. La moyenne, Mediapro délègue. Et puis la basse, ça continue telle quelle, mais il va falloir que Mediapro donne de l'argent. Juste un dernier mot, Philippe. C'est quand même problématique. Attention, le football, parce que rien n'est acquis dans la vie. Ces dernières semaines, Canal+ a fait des audiences plus fortes sur la Formule 1 que sur le football.
Ouais.
Prenez-le quand même en considération. Tout le monde croit que le foot est éternel et que tout le monde va regarder le football toute la vie. Non, c'est peut-être pas le cas. Donc attention le football.
On restera sur cette mise en garde. Merci beaucoup Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Merci Christophe Lepetit. Je rappelle que vous êtes économiste au Centre de droit et d'économie du sport à Limoges. Dans un instant, en Culture Média, continue, on va parler du Téléthon et d'une grande tombola inédite et solidaire organisée pour la première fois pour récolter un maximum de fonds. C'est le principe. On sera avec l'une des marraines de cet événement, Laura Tenoudji, oui, la fameuse Laura du Web, et Tristan Carnet, le réalisateur de l'émission. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est la première fois que vous venez à Culture Média, j'en suis ravi. Bonjour Laura Tenoudji.
Bonjour Philippe, je suis ravie de vous voir.
Les téléspectateurs Télématin vous connaissent bien, vous êtes pour eux Laura du Web et vous étiez l'une des premières à parler d'Internet au quotidien. Les lecteurs de la presse People et des pages politiques vous connaissent bien également puisque vous êtes désormais l'épouse du maire de Nice, Christian Estrosi. Mais votre actualité, c'est la 34e édition du Téléthon, c'est ce week-end, les 4 et 5 décembre. Ça sera sur les antennes de France Télévisions. Bonjour Tristan Carnet.
Bonjour Philippe.
Vous êtes réalisateur de télévision, une référence, c'est vous qui êtes aux manettes derrière Mask Singer, The Voice, Quotidien. C'est vous également qui aviez filmé et mis les caméras pour le débat présidentiel Macron-Le Pen. J'en parle parce qu'on parlait du débat VGE Mitterrand. Ouais. Ce week-end, comme chaque année, il y aura des grandes soirées de variété et d'exploits dans ce Téléthon. On va en parler, bande-annonce.
Vendredi et samedi, c'est la grande fête du Téléthon.
Malgré cette année si particulière, nous serons encore et toujours aux côtés des enfants, des familles et des chercheurs qui progressent sur tous les terrains.
Pour réaliser un véritable tour de force et multiplier les victoires.
Plus de 30 heures de programme sur toutes les chaînes de France Télévisions.
Un grand week-end de générosité et d'émotion.
Avec le soutien des artistes et de nombreuses personnalités. Pour que l'espoir l'emporte sur la maladie et pour qu'on soit tous ensemble, hashtag trop fort.
On compte sur vous.
La grande fête du Téléthon fait grimper le compteur de la solidarité. Vendredi et samedi sur France 2 et France 3.
Appelez le 3637 ou donnez sur téléthon.fr.
Alors on a reconnu les voix de Nagui et de Sophie Davant, on les connaissait, mais d'abord Laura Tenoudji, il y a une nouveauté qui n'est pas annoncée dans la bande-annonce cette année, c'est la grande tombola du Téléthon. Racontez le principe.
Alors le principe, en fait, on s'est basé sur la tombola qui était montée pendant le confinement pour Protège ton soignant par Star Solidaire, ouais. Et que j'avais reçue sur des lives qu'on faisait tous sur Instagram à défaut de pouvoir faire notre métier. Et j'ai trouvé l'idée tellement géniale d'avoir cette possibilité de gagner des œuvres, parce qu'il y avait des œuvres d'art dans cette tombola, et de mettre finalement la culture au service de la recherche, qu'on s'est mis pour défi de réunir le plus grand nombre d'artistes, le plus grand nombre d'expériences culturelles, et bien sûr, il y a des sportifs et il y a quelques people.
Ouais.
Et pour 10 euros, vous pouvez gagner une œuvre d'art, alors que précédemment, on faisait une vente aux enchères, que Tristan connaît bien, et c'était compliqué de dire aux gens, bah, écoutez, voilà, il y a un tableau de Ben, il est à 10 000 euros, on vous demande d'enchérir, parce que surtout aujourd'hui, enchérir...
Les gens, les 11 000, ils ne les ont pas.
Voilà, ils ne les ont pas.
Alors racontez, donc pour 10 euros, qu'est-ce qu'on peut avoir ?
Pour 10 euros, on peut avoir plein de toiles, de sculptures, de photos. Alors, je vous parlais d'artistes, il y a Ben, il y a Di Rosa, il y a Ernest Pignon Ernest, il y a JR,
ouais.
Il y a John Wan, pour n'en citer que quelques-uns, mais il y en a une cinquantaine.
Il y a une sculpture des grands artistes contemporains.
Il y a Orlansky.
Sculpture... Ouais, Orlansky, j'ai... 10 euros, la sculpture, elle est estimée à 62 000 euros.
Exactement.
Il y a des rôles de figurants dans le film de Beigbeder.
et de Nicolas Bedos.
Ça sera sûrement au bar. Il y a une visite privée du château de Chambord. Les films de Bec Bédé, quand même, ouais, hein, on les connaît. Une visite privée du château de Chambord avec Stéphane Bern. Alors,
ça, c'est quand même le lot qui est numéro 2. C'est-à-dire que où tout le monde achète des tickets. Alors, c'est pour ça que je tiens à préciser que c'est une nuit au château de Chambord.
Ah, il y a la nuit avec ?
Oui, vous passez la nuit au château de Chambord.
Mais pas avec Stéphane Bern.
Il y a écrit visite du château avec Stéphane Bern. Je pense que certains ou certaines pensent qu'ils vont passer la nuit avec Stéphane Bern. Et c'est pour ça qu'on voit le nombre de tickets exploser sur ce lot. Mais Stéphane Bern, a priori, ne passe pas la nuit avec vous si vous achetez des tickets et si vous gagnez ce lot.
Ouais, Stéphane Bern, quand on voit cet après-midi sur Europe 1, on va lui demander. Il y a également des sacs à gagner, des sacs Saint-Laurent, Givenchy, le Louvre rien que pour moi. C'est pas moi qui le dis. C'est un lot, on a le Louvre rien que pour soi. On se balade tout seul dans le Louvre. Et M, j'ai vu qu'il y avait M, il va donner quoi, M ?
Il donne sa redingote rose.
D'accord.
Mythique redingote.
On peut choisir son lot ? On achète 10 euros et on ne sait pas sur quoi on tombe. Est-ce que moi, je peux gagner le sac Givenchy ?
Ah non, surtout pas.
Moi, je préférais le Louvre rien que pour moi.
C'est le principe de cette tombola. C'est vous n'achetez des tickets que sur les lots que vous êtes susceptibles de gagner. Il y aura un tirage au sort par lot.
Tristan Carnet, le Téléthon, c'est 30 heures de direct. Vous n'allez pas être en direct pendant toute la durée, mais vous allez réaliser les grandes soirées du vendredi et du samedi. Comment vous êtes organisé pour créer un spectacle ? Parce que Dieu sait que je sais que vous aimez le spectacle. En dépit du Covid, en dépit du confinement, qu'est-ce qu'on va voir à l'image ?
Ah bah on va voir un plateau plein d'invités, de joie, de bonne humeur, comme chaque année, parce que ça reste la grande fête pour les enfants. Et en dépit du Covid, cette année, il y aura quand même des personnes sur le plateau. Mais les invités, parce qu'on se parle bien d'invités, seront toutes les familles qui seront présentes sur le plateau, qui seront donc mécaniquement un public pour l'émission. Mais on va garder vraiment l'esprit de chaque année du Téléthon, de fête et de... d'un enchaînement de séquences assez riche d'explications, de magnéto, de cette vente de tombola dont vient de parler de Laura et d'un nombre assez important d'invités qui viennent avec toujours le même plaisir sur ce plateau.
Je sais que ça sera un gros truc parce que ça fait je ne sais pas combien de jours que vous êtes en répétition. On continue de parler du Téléthon avec Tristan Carnet, le réalisateur, et Laura Tenoudji, une des marraines, une des présentatrices de ce Téléthon. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Laura Tenoudji, co-présentatrice et presque égérie de ce Téléthon, c'est le 34e.
Merci.
Tristan Carnet, c'est le réalisateur de l'émission. Si vous voulez faire des dons, c'est le 36-37. Il y aura plein d'émissions, il y aura plein de soirées. Il y aura deux grandes soirées de variété, une le vendredi, une le samedi. Le parrain, ce sera Matt Pokora. Vous savez qui seront les artistes ? Vous avez la liste en tête ? Moi, je l'ai noté, des artistes autour de Matt Pokora.
Bon, on en a quelques-uns, surtout que moi, je les ai harcelés pour qu'ils nous donnent des objets pour la tombola.
Ah oui.
On aura même la perruque de Bilal Hassani.
Une des.
Ouais. Mais la plus mythique. Hein, la
ah,
plus
c'est
mythique.
Vrai, mince.
Ouais. Dany Briand nous a offert sa veste à paillettes bleues. On a également, bah, vous le disiez, Matt Pokora qui sera là tout le temps, qui nous a offert son micro, qui a été intégré à une œuvre d'art. Il y aura Vianney, après Tristan, on peut
Patrick
aussi.
Il y aura Patrick Bruel, il y aura Alain Souchon, Boulevard Désert. Il y aura
Claudio Capeo.
Vianney,
ouais. Gims.
Claudio Capeo, Gims.
Pourrait donner une paire de lunettes. Slimane, Kenji Girac pourrait donner une gratte. Amel Bent, Pascal Obispo, on l'a dit. Amir, Bilal Hassani, Dadju, Camélia Jordana.
Camélia.
C'est quand même assez impressionnant. Ils sont difficiles à convaincre, les artistes, ou est-ce qu'ils viennent tout de suite pour une cause pareille ?
Ils disent oui assez facilement. Sincèrement.
Ouais, ils viennent franchement chaque année. C'est Emmanuel Viro qui fait la programmation avec Philippe Villamediana, le producteur. Et Carole Guizou, mais franchement, ils viennent vraiment avec plaisir chaque année.
Alors, c'est pas une émission de variété, c'est pas seulement une émission de variété. Le Téléthon, ça a un sens. C'est Sophie Davant, je l'ai dit, qui sera la maîtresse de cérémonie. Et notre journaliste Louise Bernard l'a interrogée au sujet de l'importance de continuer le Téléthon encore et toujours, année après année.
Le compteur est généré à la fois par l'appel aux dons et la générosité et la réponse des Français, mais aussi par toutes les manifestations sur le terrain de ce que nous appelons les forces T, les forces terrain, les forces Téléthon. Et hélas, à cause de la crise sanitaire, il n'y aura pas de manifestations sur le terrain cette année, donc c'est beaucoup, beaucoup de millions en moins. Injecté dans le compteur, donc on fera ce qu'on pourra pour essayer de compenser. J'espère que les Français répondront massivement à nos appels aux dons et peut-être de manière encore plus généreuse.
Tristan Carnet, l'essentiel pour la Z-Heure que vous êtes, c'est ce qui est à l'antenne ou c'est le compteur qui défile ?
Ça reste toujours le compteur qui défile sur cette émission parce que, après avoir fait le Téléthon pendant des années avec Laura, c'est vrai qu'on voit chaque année le progrès, les progrès dans ce domaine qui sont faits et qui sont gagnés grâce aux dons qui sont faits chaque année. Donc c'est vrai que nous, on regarde toujours le compteur. Évidemment, ça passe par l'antenne et ce qu'on va donner à voir à l'antenne. C'est vrai que cette année, C'est une année particulière parce que les centres de promesses, les fameuses villes qu'on montre chaque année, qui montrent la mobilisation dans toute la France, vont pas être à l'antenne malgré une mobilisation qu'il y aura quand même sur le terrain. Mmh. C'est-à-dire que les gens qui portent le Téléthon chaque année seront là. Évidemment, ils seront filmés d'une manière un peu différente, plus légère. Ça sera rapporté dans le Téléthon de la journée, mais moins le soir. Mais bon, voilà, la mobilisation reste et c'est vrai qu'on espère cette année que le compteur va continuer à monter parce que même s'il y a eu le Covid qui est passé par là, la maladie, les enfants qui sont touchés chaque année par cette maladie restent aussi nombreux. Les progrès et le travail fait par toute l'AFM et par tous les scientifiques reste un engagement hyper important, donc c'est vrai que ça passe par le compteur.
Vous parlez des progrès, justement, on peut se poser la question depuis toutes ces années de Téléthon, quels ont été les progrès ? Eh bien, c'est la question que Louise Bernard a justement posée à Sophie Davant.
Les nouvelles thérapies que l'association a initiées grâce à l'argent des Français, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, sont efficaces et portent leurs fruits aujourd'hui. On voit vraiment des enfants recouvrir leur liberté de mouvement. On avait déjà commencé à en parler l'an dernier, mais c'est de plus en plus spectaculaire. Donc, c'est des traitements qui parfois ne parviennent pas à guérir, mais qui, injectés très tôt dans la vie d'un enfant, lui permettent de retarder considérablement l'échéance de la perte de mouvement.
Voilà, il n'en reste pas moins qu'évidemment, ces traitements concernent encore trop peu d'enfants et ils sont très chers. Alors, on ne peut pas tout citer. Samedi soir, il y aura la nuit du Téléthon. Ça va être de minuit à 6h20, présenté par Sophie Jovillard. Ce n'est pas vous qui allez réaliser, Tristan Carnet. Vous n'allez pas faire la nuit blanche.
Non, je dormirai. On est quand même plusieurs. D'abord, on se passe le relais.
Ouais. Évidemment.
Et surtout que le samedi, l'émission est programmée de 21h à minuit. Mais en fait, on se termine toujours à 3h du matin.
Oui.
Donc, on met toujours la même énergie. Et c'est vrai que cette année est ultra particulière. Et l'idée, c'est d'inciter les gens aussi à mobiliser leur communauté.
Ouais.
Les réseaux sociaux, parfois, n'apportent pas toujours que du bon. Mais là, on compte sur eux pour apporter du bon, puisqu'on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se voir. Mais envoyer des messages, faire des tweets, faire des posts pour inciter les gens à donner, parce qu'il n'y a pas de petits dons. Et c'est vrai que la recherche avec Tristan, ça fait maintenant quelques années qu'on fait le Téléthon. Et il y a 10 ans, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ces espoirs. Là, il y a une maman, on va voir un petit Yacine qui a 2 ans, son garçon marche. Avant, il y a 10 ans, le même diagnostic, il ne pouvait pas marcher, sa vie, il l'a passé en fauteuil.
Très rapidement, Laura, parce que c'est Laura du web, il y a un hashtag, hashtag trop fort, c'est quoi ce hashtag ?
C'est le hashtag du Téléthon, il faut inciter les gens à donner, vous faites hashtag trop fort, hashtag Téléthon 2020, voilà, star solidaire si vous participez à la tombola, au lieu de jouer au loto, vous avez plus de chances de remporter un lot de valeur que de remporter une petite somme au loto.
Ouais, vous aurez le Louvre, rien que pour vous, et Stéphane Bern à Versailles. Merci beaucoup Laura Tenougi, merci Tristan Carnet.
Merci.
Donc je rappelle la 33e édition du Téléthon ce week-end, les 4-5 décembre sur les antennes de France Télé, et c'est le 36-37 pour faire les dons. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un film documentaire tourné en immersion pendant des mois dans une formation d'élèves infirmières et infirmiers. Et puis notre invité, c'est absolument incroyable, la personne qui arrive, le compositeur et pianiste canadien Chili Gonzalez, un personnage, un album de Noël, A Very Chili Christmas. Et puis dans les indispensables, une très belle réédition du Comte de Monte Cristo et le spectacle du youtubeur aux milliards de vues, c'est Norman. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.